Frères et sœurs, qu'allons-nous faire des paroles que nous venons d'entendre? Nous avons la possibilité de les laisser passer, de n'en rien faire, de leur prêter une oreille à peine distraite et de poursuivre notre chemin comme si de rien n'était. Mais nous avons aussi la possibilité de comprendre qu'elles nous sont destinées. Ce qui signifie alors que nous marquons un temps de pause et que nous prenons la peine de nous interroger, de nous remettre en question et de consentir à une certaine évolution de nos vies. Nous croyons en effet que Dieu veut pour nous le meilleur. Et c'est pourquoi il nous invite, par la voix de son apôtre Paul, à rechercher les réalités d'en haut et non pas celles de la terre. Profitons vraiment de l'occasion qui nous est gracieusement offerte ce matin pour refaire nos forces un peu comme dans une oasis. Dieu ne nous a pas créés pour demeurer sans cesse immergés dans des préoccupations matérielles au point d'oublier qui nous sommes et quelle est notre vocation véritable. Pour cela, il nous faut sans doute commencer par reconnaître avec simplicité que les mots choisis peuvent paraître assez sévères. Ils ne sont pas destinés à nous bercer d'illusions ni à nous brosser dans le sens du poil. Nous sommes donc autorisés à réagir en nous sentant quelque peu dérangés. Telle est bien la force propre de la parole qui vient de Dieu, ne pas nous laisser indifférents. Ainsi pouvons-nous interroger notre propre vie, nos choix personnels et sociaux, nos manières de vivre en famille et entre amis. Que serait une existence humaine qui ne serait jamais traversée par aucune question? Elle s'enfoncerait inévitablement dans la routine et dans l'ennui. Elle serait également contrainte de rester prisonnière de l'erreur et de la facilité. Or Dieu sait bien que nous sommes capables du meilleur. Et c'est alors que se pose à nous une question décisive. Sommes-nous disposés à changer? Nous fonctionnons tous avec des habitudes et nous savons ce qu'il en coûte de transformer certaines d'entre elles. À l'attention des jeunes chrétiens qu'il rencontrait, saint Paul ne ménageait ni sa peine ni son énergie. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre: débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Il existe bien en nous aussi des désirs mauvais, des tentations qui nécessitent d'être purifiées, des ambitions qui ne sont pas toujours justes, des attitudes ambiguës. Pour le dire autrement, nous ne sommes pas parfaits. Il ne s'agit pas de nous sentir accablés ou paralysés, mais plutôt d'éprouver la joie profonde de faire mieux, de grandir, de nous convertir sans cesse. Il existe, vous le savez comme moi, une accusation ancienne et injuste adressée aux chrétiens, selon laquelle ces derniers porteraient un regard négatif et pessimiste sur la nature humaine. En vérité, rien ne devrait jamais permettre de donner un crédit sérieux à ce reproche. Au contraire, Jésus est venu révéler de toutes les manières possibles la beauté de la nature humaine quand elle est libérée du péché. Or, le projet créateur de Dieu ne comportait pas ce poids du péché qui est venu abîmer l'humanité. Notre vie à la suite du Christ repose donc sur le rejet du péché et sur la conversion qui permet de renouveler le reflet de Dieu dans le cœur humain. Par conséquent, les chrétiens, au nom de leur foi, ne peuvent jamais désespérer de l'humanité. Toujours, ils doivent rechercher et proclamer une parole d'espérance. Nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Et il ne faut pas confondre l'appel à la conversion avec une forme de mépris ou d'indifférence. En prenant appui sur le plus grand mystère de la foi, celui de Jésus ressuscité, Paul met en regard celui qu'il appelle l'homme ancien, prisonnier du mal et du péché, centré sur lui-même et tourné vers le passé, et celui qu'il appelle l'homme nouveau, accessible à la grâce, ouvert à Dieu et aux autres, désireux de se laisser renouveler, transformer, purifier. Un élément particulier qui permet de passer de l'un à l'autre est le refus du mensonge. Il n'existe pas de petits mensonges, de mensonges sans conséquences, de mensonges dérisoires. Et le premier mensonge à rejeter est celui que parfois nous utilisons contre nous-mêmes. En effet, il peut être confortable de nous mentir en refusant de voir la réalité, en nous auto-persuadant que nous n'avons plus à progresser. Un exemple particulier d'appel au changement est évoqué à plusieurs reprises dans les textes de ce dimanche. Il s'agit de l'argent. Ce sujet est un peu sensible, nous le savons bien, particulièrement pour nous peut-être. Malgré certaines idées reçues, Jésus ne condamne pas l'argent en tant que tel, mais il met en garde contre certains de ses usages et contre les tentations qu'il entraîne. C'est ainsi qu'il décrit cet homme qui accumule des richesses et qui leur construit même un abri. Il devient obsédé par ses biens matériels. Il ne pense plus à rien d'autre. Il consacre toutes ses forces à les protéger. Il devient ainsi isolé et méfiant. Et c'est alors que retentit la voix de Dieu. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Nous comprenons ainsi que l'argent n'est pas mauvais en soi. Il est même nécessaire pour vivre. Mais il ne doit pas devenir le cœur de notre vie, le moteur principal de nos actions et de nos initiatives. Sachons garder une certaine liberté à son égard pour ne pas en devenir les esclaves. Que de problèmes familiaux et de conflits entre personnes se trouvent entraînés par l'argent. Et finalement, les propos de Jésus nous interrogent, au cœur de cet été, sur le sens de notre vie. À quoi sommes-nous prêts à consacrer nos efforts ? N'hésitons pas à prendre un peu de temps pour faire le point et pour nous laisser saisir, encore et toujours, par l'appel du Christ à le suivre. Car voilà quel est notre vrai trésor, voilà quelle est notre joie, et voilà quelle est notre espérance. Amen.